Fait que merci énormément pour tous ceux qui se mettent à part, justement dans un intérêt commun. Et ce matin, dans la même veine, je veux lire avec vous le passage donc, qui est une partie de la prière sacerdotale qui se trouve dans Jean chapitre 17. Donc, Évangile de Jean chapitre 17. Et au lieu de commencer au verset 17, on va commencer au verset 13. On va débuter notre lecture au verset 13. Alors, verset 13. Et maintenant, je vais à toi. Alors, c'est Jésus qui parle. Maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Alors avant que j'oublie, j'ai un message qui m'est parvenu de mon épouse, un message d'urgence. Les jeunes, le 16 mai. C'est-tu le 16? Le 18 mai, sorti, prévu. Donc, mettez ça à votre agenda. OK, 18 mai, sorti pour les ados. Mettez ça à votre agenda. Alors, on voit ici le Seigneur qui s'adresse à ses disciples. C'est un moment intime où il va le dire lui-même. Il a achevé l'œuvre que le Seigneur, son Père, lui a confiée. Donc, le Seigneur est devant finalement ce qui est inévitable, pas parce qu'il va à reculons, mais parce que d'un commun accord avec son Père, il a voulu. Il a demandé au Père, étant pleinement homme, Seigneur, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais que ta volonté soit faite. Alors, Seigneur, de plein gré, a rien épargné pour pouvoir nous offrir ce salut, pour nous acquérir ce salut. Et en passant un petit peu pour le cours de l'œuvre de la grâce, pour ceux qui se demandent de quoi parle ce cours-là, de quoi il s'agit, je veux juste répéter que c'est, en gros, c'est ce salut que Christ nous a acquis, comment il est appliqué à nos vies individuellement. Comment ce salut que Jésus nous a acquis est appliqué à chacune de nos vies par le Saint-Esprit. Alors, Jésus fait cette prière devant ses disciples. Il aurait pu prier le Père seul, dans un lieu secret, comme il le fait souvent durant son ministère. Mais dans ses derniers moments vécus avec ses disciples, il décide de le faire à haute voix, devant ses disciples, en compagnie de ceux que le Père lui a donnés. Et vous allez voir que tout au long de ce qu'il va exprimer devant le Père, et puis dont les disciples vont être témoins, c'est d'une certaine façon, il est en train de passer le bâton à ses disciples. On voit ici le Seigneur qui dit qu'il retourne au Père et qui lègue un héritage à ses disciples. Il est en train de leur passer le bâton. Et il va faire connaître ses dernières volontés. On a l'impression que le Seigneur Jésus est en train finalement de leur communiquer ses dernières volontés. Il est en train de leur rappeler qui ils sont et vers dans quelle direction ils vont marcher. Il est en train de leur rappeler sur quelle base leur foi va être affermie. Sur quelle base, en quoi finalement ils vont devoir mettre leur confiance pour les jours, les semaines, les mois. Et pour ses disciples, c'est terrifiant. Ils ont marché avec le Seigneur pendant 3 ans. Le Seigneur Jésus a tout initié. Il les a conduits, il les a pris par la main et là, il leur annonce et ils se mettent à comprendre réellement qu'il va les quitter. Que Jésus va réellement les quitter. Ils commencent tranquillement à comprendre. Et il leur fait ce testament-là. Il leur fait connaître ses dernières volontés. Et pendant qu'ils prient, on réalise une chose, c'est qu'il s'adresse à eux, mais comme il dit un peu plus loin, il nous a en tête, vous et moi. Et il ne prie pas seulement pour eux, mais il prie aussi pour ceux qui croiront par la parole des apôtres. Alors déjà, le Seigneur intercède. Avant même d'être entré dans sa gloire, il intercède pour vous et moi. Et il va intercéder, il va demander des choses au Père, des choses très spécifiques. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Donc, on sait très bien que quand il dit que je vais vous quitter, en fait, ses disciples ne seront pas laissés seuls. Mais voyons ensemble ce matin quel est ce testament, quelles sont ses dernières volontés avant de retourner auprès du Père. À plusieurs reprises, il dit, « Père, je m'en vais à toi, je retourne à toi. Maintenant, voici ce que je te demande pour ceux que tu m'as confiés. Voici ce que je te demande. » Alors, il s'est volontairement adressé au Père à haute voix devant ses disciples et il déclare ces choses en un but. Et c'est pour ça que j'ai voulu démarrer la lecture au verset 13, c'est qu'on puisse savoir pourquoi est-ce que Jésus s'est adressé au Père comme ça, à voix haute, devant ses disciples. Jésus avait un but en tête, c'est que notre joie soit complète. C'est que notre joie soit complète et le mot ici fait référence à une quantité. Qu'on soit rempli à ras-bord de cette joie qui est la joie des enfants de Dieu. Rempli à ras-bord de cette joie. Donc, par les paroles que Jésus prononce, ses disciples vont être remplis d'une joie, étant rappelés de leur identité, qui ils sont, vers où ils s'en vont et qu'est-ce que Jésus leur lègue. Qu'est-ce que Jésus leur lègue pour accomplir cette mission qu'il leur confie? Alors, par ces paroles que Jésus prononce à haute voix, une joie va remplir leur cœur. Et ça nous rappelle que notre joie va toujours être proportionnelle à notre connaissance de Dieu. Mais attention, encore une fois, ne pas confondre compréhension et connaissance. Souvent, on confond les deux. On ne parle pas ici d'une compréhension, de comprendre de quel genre de Dieu on parle. De faire une liste de son caractère. La compréhension, on pourrait dire que c'est la première étape. Dieu nous a créé des êtres intelligents avec un intellect et on appréhende, on reçoit ces informations. C'est des paroles qu'on reçoit, c'est une information que le Seigneur nous communique. Mais ces informations-là, c'est que cette parole descend au cœur et vient faire une transformation de tout notre être. Elle vient réorienter nos vies. Donc, on ne reste pas au niveau de la compréhension. Quoi qu'on ne néglige pas, on prend des cours. Il y a 2 cours cette session-ci qui sont donnés. Petit prophète le mardi et l'œuvre de la grâce le mercredi. Donc, le Seigneur nous a créé des êtres intelligents avec un intellect. Mais on s'assoit et on croit que sa parole est vivante, que sa parole communique la vie. Et que sa parole est la seule qui puisse désamorcer ces mécanismes que le péché a inculqué dans nos vies, dans nos pensées, dans nos habitudes. Cette parole est la seule qui peut désamorcer ces choses dans nos vies. Alors notre joie va être proportionnelle à la connaissance qu'on va avoir de Dieu. mais une connaissance qui s'acquiert à travers sa parole et à travers l'obéissance. À travers sa parole et à travers l'obéissance. Et puis le Seigneur va leur dire, ne soyez pas naïfs. Ne soyez pas naïfs, le monde va vous haïr comme il m'a haï moi-même. Parce que, pourquoi? Parce que vous n'êtes pas du monde. Vous n'êtes pas du monde. Et ça, c'est un thème cher à l'apôtre Jean, le fameux « cosmos » en grec. Il va le mentionner 58 fois dans son évangile. Il va établir ce contraste-là, que l'enfant de Dieu n'est plus de ce monde. Il appartient à un autre royaume. Pendant que les puissances aujourd'hui s'entretuent pour acquérir des territoires, acquérir des richesses, pour étendre leur pouvoir, le Seigneur se rit. Le Seigneur se rit, psaume 2, parce qu'il connaît la fin de toutes choses. Et l'enfant de Dieu, par l'Esprit qui habite en nous, discerne de plus en plus la fin des choses. Ce qui est impossible à l'homme naturel. Ce qui est impossible à l'homme qui n'est pas régénéré. C'est ce qu'on va voir, entre autres, dans le cours de l'œuvre de la grâce. Alors, le fameux cosmos, 58 fois, 17 fois dans son épître. Et l'apôtre Paul aussi reprend ce thème-là, surtout quand il s'adresse aux Corinthiens, où il va identifier ce contraste-là 17 fois, lui aussi, dans la première lettre aux Corinthiens. Le fait qu'on n'est pas de ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a de si mauvais dans ce monde? Et à quoi on doit s'attendre? À quoi on doit s'attendre du fait qu'on n'est pas de ce monde? 1 Corinthiens 1, 21 nous dit que « Puisque le monde, le cosmos, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Donc, le monde a sa propre sagesse. Le monde a ses propres standards. Le monde, comme j'aime répéter, a son propre agenda. Et dans tout ça, c'est l'homme qui est le point de départ. Tout ça avec une foi en l'homme et une foi dans le progrès de l'homme, une foi dans le progrès de l'humanité. Donc, ce monde a une sagesse qui n'est pas la sagesse de Dieu. Et contrairement à cette sagesse, nous croyons en la rédemption de l'homme. Donc, on ne croit pas au progrès de l'homme, on croit à la rédemption de l'homme. On croit ce que le Seigneur vient faire quelque chose de nouveau. Il a annoncé, il a déjà déclaré d'avance le jugement qui pèse sur ce monde. Le verdict est tombé, mais le monde a ignoré ce verdict-là. Et je pense que c'est Isaïe qui va dire, il est comme un troupeau qu'on mène à l'abattoir. 1 Corinthiens 2,12 nous dit que, or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alors le monde a sa sagesse, le monde est animé d'un autre esprit aussi. Et nous ne sommes pas comme enfants de Dieu animés du même esprit. Le monde est animé d'un esprit. Et plus je connais, en fait, nous sommes animés d'un autre esprit. Plus je connais ce qu'il m'a donné, plus je connais ce que Dieu m'a accordé, ce qu'il m'a donné dans sa grâce, plus ce qui est éphémère, passager, pâlit, et plus la convoitise perd de son emprise. Sans pour autant me retirer du monde. Alors, le monde, le cosmos, a sa sagesse, est animé d'un esprit qui n'est pas le même. Et l'apôtre Jean va dire dans 1 Jean 2,16, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Alors ici, on connaît bien ce passage où il vient dresser justement ce qui est le moteur de ce monde. Et là, on commence à comprendre un peu mieux Qu'est-ce qui nous distingue? Qu'est-ce qui fait qu'on appartient réellement à un autre royaume? Ces trois choses-là. Convoitise de la chair, convoitise des yeux et orgueil de la vie. Le monde passe, il va dire un peu plus loin, toujours Jean, le monde passe et sa convoitise aussi. Ah, c'est le verset suivant en fait. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc le monde dans sa sagesse, avec l'esprit qui l'anime, court après du vent finalement. Il est en train de courir après du vent. Si on voulait décrire la convoitise, c'est que nos désirs nous poussent à courir finalement après du vent, après des choses qui vont nous être enlevées, qui sont là un jour et qui le lendemain sont plus là. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 5,4 nous dit, « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est par cette connaissance de Dieu, c'est par son esprit en moi, que, comme je disais tout à l'heure, que la convoitise, que l'attrait de la convoitise est désamorcé sur ma vie. L'Esprit de Dieu vient désamorcer ces mécanismes, ces réflexes dans nos vies. Et c'est par cette foi que je viens à remporter la victoire, parce que Christ dépose en moi des nouvelles affections, des nouveaux intérêts. 1 Jean 5, 9, 5, 19, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, le Seigneur vient nous ouvrir les yeux sur la fin de toute chose. Il vient remplir nos cœurs d'une joie, sachant que l'héritage qu'il nous donne ne peut pas être ravi par la rouille, par le voleur. Et vous savez pourquoi je mets l'accent là-dessus ce matin? C'est parce que des fois, on peut être naïf. On peut être naïf, on peut dire, pourtant le monde est rempli de bonnes personnes. Hein, c'est souvent un réflexe. On dirait que malgré tout, malgré le fait qu'on marche avec le Seigneur depuis tant d'années, on a cette justice en nous qui crie, « Hey! » C'est injuste. Je connais plein de gens autour de moi qui sont pleins de bonnes intentions, qui font un bien réel. Ils sont vraiment des atouts à notre société. Ils font un bien réel aux gens autour d'eux. Et puis, on peut rendre grâce à Dieu pour cette grâce commune. Où le Seigneur, par toutes sortes de moyens, vient freiner le mal. Et il se sert même de gens qui renient son nom en passant. C'est une grâce commune. Mais dans ce bien-là, ils demeurent ennemis, vivant de leur propre justice. Et la Bible nous enseigne que le monde est sous la domination du péché. Le monde est sous la domination du péché. Et nous-mêmes, nous vivions pour satisfaire nos propres convoitises. Mais dorénavant, notre désir, c'est de faire la volonté de notre Père. Et la Bible nous fait cette promesse. Nous demeurons pour toujours. Alors, Seigneur nous a vraiment mis sur une nouvelle trajectoire. Jésus va demander aux ses disciples, il va demander à son Père pour ses disciples, préserve-les du mal. Préserve-les du mal ou du malin. Mais il n'a pas demandé à son Père de les retirer du monde. Faites attention, d'être préservé du mal et d'être retiré du monde sont deux choses différentes. Parce que, on s'est sûrement déjà posé la question, pourquoi est-ce que le Seigneur ne vient pas nous ramener à la maison au moment où il nous a sauvés? Hein? Ce serait peut-être plus simple. pour nous en tout cas. Ça serait plus simple pour nous. Pourquoi est-ce que le Seigneur ne fait pas ça? Il l'a prié clairement, il a demandé clairement à son Père, « Préserve-les du mal, mais je ne te demande pas de les retirer du monde. » Ils ne sont pas du monde, mais je ne te demande pas de les retirer du monde. Et pourtant, plusieurs d'entre nous, des fois, j'ai l'impression, avons pris notre retraite. Hein, il y a des mouvements comme ça, peut-être des saisons dans vos vies où on a préféré se retirer. Et pourtant, Seigneur a pris le Père. Seigneur, je ne te prie pas de les retirer. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver. Il va renchérir là-dessus. Il va renchérir en disant, je ne te prie pas de les retirer, je te demande même de les sanctifier, comme moi-même je me suis sanctifié. Je te demande de les mettre à part, parce qu'ils vont poursuivre l'œuvre que j'ai débutée. Donc, Jésus s'est sanctifié en s'offrant lui-même en sacrifice. C'est la base de notre salut. Maintenant, il nous sanctifie pour proclamer la bonne nouvelle du royaume. Alors, il n'est pas simplement en train de demander à son Père de ce qu'on soit gardé, préservé du mal, mais qu'en plus, on soit mis à part pour proclamer cette bonne nouvelle. Qu'on soit donné entièrement à lui, entièrement à son service. Comme je disais tout à l'heure, qu'on soit rassemblé derrière le chef Jésus-Christ, parce que c'est au service du projet de Dieu. Donc, le Seigneur prend des électrons libres, hein, il nous prend chacun de nous avec nos petits projets personnels, et puis il nous rassemble derrière le chef Jésus-Christ. Il nous rassemble derrière un projet, c'est le projet de Dieu. C'est la mission de Dieu. Et c'est un peu ce que Jésus est en train d'énoncer pendant qu'il prie au Père, pendant qu'il prie le Père, pendant qu'il s'adresse à son Père, notre Père. Voici, Seigneur, la vision que je veux qu'ils saisissent, la mission qui est la leur. Maintenant que je retourne à toi, Seigneur, je t'en prie, c'est la prière du Fils à son Père. Et donc, non seulement préservé du mal, mais mis à part et envoyé. Alors peut-être ce matin, ça va nous ébranler un peu dans notre concept de la vie chrétienne, où souvent ça se réduit à se préserver de grands péchés. Le Seigneur nous envoie dans ce monde. Et si je le répète ce matin, c'est parce que peut-être qu'on a une compréhension justement erronée du fait qu'on n'est pas du monde. Si je ne suis pas du monde, je me retire du monde. Si je me retire du monde, je me réfugie où? Ben, je me réfugie dans l'Église, je me réfugie au sein de ceux qui lui appartiennent, qui parlent comme moi, qui pensent comme moi, qui réfléchissent comme moi. Et il y a une place pour ça. Mais le Seigneur nous a mis à part parce qu'il nous envoie. Il nous envoie annoncer une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle va se faire entendre dans la mesure où on marche d'un seul pas. Et c'est un peu le thème de ma prédication ce matin. Le Seigneur va dire, je te prie afin qu'il soit parfaitement un comme moi et toi, Père, nous sommes un. Réalisez-vous que ce n'est pas quelque chose qu'on peut créer, nous, naturellement. Qu'on soit un comme le Père et le Fils sont un, éternellement un. Cette unité, elle nous dépasse. Et le Seigneur Jésus a prié dans ce sens-là. Déjà, avant d'entrer dans sa gloire, avant d'aller retrouver son Père. 1 Corinthiens 10, 17 dit, « Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » Philippiens 1, 27, je pense que je n'avais pas envoyé la référence, je ne suis pas certain. Demeurez ferme dans un même esprit. Alors cet esprit nous a été donné. Maintenant, Paul va dire aux Philippiens, demeurez fermes dans cet esprit, dans ce même esprit, combattant du même âme pour la foi de l'Évangile. Philippiens 2:2 dit, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Alors, cette mission que le Seigneur nous confie, elle va être, ce message que le Seigneur nous confie va être entendu dans la mesure où on marche comme un seul homme, où on marche dans cette unité derrière notre chef Jésus-Christ, avec un même esprit, d'une même âme. Ça va avoir deux effets. Le texte nous l'enseigne ici. Donc, d'abord, cette unité a un prix. Si on a été racheté, si on a été converti à Jésus-Christ, c'est parce que lui a payé le prix. Lui a payé le prix. Et par le Saint-Esprit, on a été régénéré. On a été unis à Jésus-Christ. Et par cette union-là avec lui, on s'associe ensemble derrière lui. Et on se donne toutes sortes de moyens, toutes sortes d'outils, toutes sortes de stratégies. Mais toujours fondé sur les Écritures, sondant ce que Dieu veut pour nous comme Église. Donc, elle a un prix. Et elle a, ici, le texte nous donne deux effets. Donc, le monde croit que Jésus a été envoyé par le Père. Fait que ne sous-estimons pas l'effet de l'unité qui est vécue au milieu de nous. Hein, on cite souvent le passage qui dit, c'est par l'amour qu'on va avoir les uns pour les autres. Mais cet amour-là, elle prend forme, elle prend une forme concrète. C'est une unité, une même pensée, un même cœur. Croire. Donc, cette unité va avoir pour effet que le monde va croire que Jésus est envoyé par le Père. Et deuxièmement, que le monde connaisse que le Père nous a aimés comme il a aimé Jésus, son Fils. Donc, cet amour-là qui va nous animer va être un témoignage pour le monde. Et cet amour-là, ce témoignage-là, va les conduire au Père. Le Père nous a aimés comme il a aimé le Fils. Alors, quand je vous dis que cette unité-là, on ne la crée pas par nous-mêmes. Hein, il y a toutes sortes de clubs. En passant, le monde aspire. On parle du monde aujourd'hui, on parle du cosmos. Le monde aspire cette unité-là. Hein, le monde aspire cette expérience fusionnelle. On a des clubs, on a des associations où les gens s'assemblent autour d'intérêts communs, de buts communs. On a des partis politiques où les gens s'assemblent pour réformer nos sociétés, pour faire de notre monde un monde meilleur. Et puis, on recherche cette unité-là. On recherche cette unité perdue, qui nous est redonnée en Jésus-Christ seul. Le Père nous a aimés comme il a aimé le Fils. Au verset 22, il dit, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Autre déclaration intéressante du Seigneur. Encore une fois, n'oubliez pas, tout ce que le Seigneur est en train de dire, c'est qu'afin que la joie dans le cœur des disciples et dans notre cœur arrive à rebord, que cette joie soit débordante, connaissant d'où on vient, notre identité, et découvrant où est-ce que Dieu nous amène. Alors, le Seigneur Jésus va dire quelque chose d'intéressant ici, il va dire, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'on parle ici de la gloire éternelle du Fils de Dieu, deuxième personne de la Trinité, cette gloire qu'il possédait depuis toute éternité avant de s'incarner? Doxa, où on parle de splendeur, de majesté, de cette gloire éternelle. de cette gloire que Dieu seul possède. Je pense ici que Jésus est en train de parler d'une autre gloire, la gloire que Dieu donne, la gloire qui nous amène à être dans l'état le plus élevé de la création, par la communion avec le Fils. Alors, ici, il fait mention deux fois de cette gloire. Donc, je me permets de faire cette distinction-là, où la gloire éternelle de Dieu et la gloire qu'il nous donne, qui nous amène à être dans cet état le plus élevé de la création. Donc, c'est cet état élevé de statut de fils et de fille de Dieu, d'héritier de Jésus-Christ. Je pense que le Seigneur Jésus est en train de parler de ce type de gloire. Le fameux Soli Deo Gloria des fameux cinq solas. Donc, à Dieu seul la gloire. À Dieu seul la gloire. Mais cette gloire dont Jésus parle ici, ça doit être cet état qui fait de nous des fils, des filles, des héritiers du Seigneur Jésus. Élevé, donc, à cet état le plus haut que la création est connue. Co-héritier du Fils. Co-héritier du Fils. Alors, c'est dans la mesure où on saisit ce que Christ a acquis pour nous. C'est dans la mesure où on saisit la vision qu'il a pour nous et comment il nous équipe. Parce que si j'ai l'impression que le fardeau demeure sur mes épaules, si j'ai l'impression que mon avenir va être déterminé par mes compétences, c'est extrêmement anxiogène. C'est extrêmement anxiogène. C'est extrêmement angoissant. Donc, le Seigneur est en train de nous dire, mettez en place une unité. Mettez en place une structure qui va vous amener à vraiment être un dans les projets que je vous confie. Il est en train de dire, vous êtes un parce que j'ai prié pour vous. Et c'est ça qui est incroyable. Donc, le Seigneur est en train d'ouvrir nos yeux et dire, vous êtes un comme je suis un avec le Père. Est-ce que vous réalisez ça ce matin? Donc, il n'est pas en train de dire, de créer, de produire cette chose-là, mais il dit, demeurez-y ferme par contre. Et s'il a prié pour nous pendant qu'il était devant ses disciples à ce moment-là, c'est comme Paul le déclare aux Corinthiens, afin que nos yeux s'ouvrent et qu'on comprenne et qu'on connaisse tout ce que le Père nous a donné dans sa grâce. Alors, je vais prier dans ce sens-là maintenant, si on veut courber nos têtes. Alors, Seigneur, merci de le faire pour nous aujourd'hui, comme tu l'as prié il y a 2000 ans. Cette parole que tes disciples ont entendue de ta bouche, Seigneur, qu'ils ont entendue de vive voix, merci de nous l'avoir laissée par écrit, afin qu'à nous aussi notre joie soit débordante, amenée, Seigneur, à Rabat. Merci, Seigneur, d'avoir prié le Père pour nous il y a 2000 ans et de continuer à intercéder aujourd'hui. Et vraiment de nous saisir par cette richesse de ton appel. Merci de désamorcer ces mécanismes dans nos vies qui nous amènent à être si individualistes plutôt, à chercher nos propres intérêts, Seigneur. Merci parce que toi, au milieu de nous, tu désamorces ces réflexes, ces mécanismes, ces habitudes, ces vieilles habitudes du péché, et tu nous rends libres. Sois béni, Seigneur, ce matin. Sois béni. Amen.